Bonjour à tous. Avant de commencer, est-ce que quelqu'un aurait une pastille pour la gorge? Oui. Non, non, c'est bon. J'ai ma boisson, c'est bon. Si jamais, voilà. Parce que je ne suis pas encore complètement guéri de ma grippe. C'est quoi ça? Alors, la prédication de ce matin, c'est la suite de la série de prédications que j'ai commencé depuis la rentrée dans les Actes. Nous avons vu dans les semaines précédentes comment le Seigneur a agi pour créer l'Église primitive. Et pour commencer cette histoire, le Seigneur a accordé à la Pentecôte l'Esprit de Dieu dans le chapitre 2. Et c'était vraiment un événement inouï et un événement surprenant en tout cas pour toutes les personnes qui étaient présentes, qui ont pu entendre les gens prier, prêcher, et à chaque fois ils pouvaient entendre avec leur langue maternelle, ce qui a surpris beaucoup de personnes et ce qui a vraiment aussi conduit à entendre, à s'intéresser au message de Pierre. Et lorsque Pierre a apporté la première prédication, il y a eu 3000 personnes qui se sont converties. Ensuite, on a vu le chapitre 3, où il y a eu une guérison d'un boiteux, qui était boiteux né de naissance. Et tout le monde connaissait cet homme, qui était toujours devant la porte du temple, en train de demander de l'aumône. Et comme tout le monde connaissait cet homme, et qu'il y a eu une guérison extraordinaire à travers l'œuvre de Pierre et de Jean, les gens étaient émerveillés. Et c'est comme ça que Pierre a pu aussi apporter une deuxième prédication. Cette deuxième prédication a été percutante aux différentes personnes qui étaient présentes, et il y a eu 5000 personnes de conversion. Super, hein? En deux prédications, il y a eu tellement de personnes. C'est vraiment super. Et maintenant, on arrive au chapitre 4. D'ailleurs, s'il y avait autant de personnes de converties, il faudrait changer l'église, à mon avis, pour aller à l'église d'à côté, où on peut accueillir 500 personnes. Donc, c'est dans le chapitre 4 que nous allons voir. Donc on arrive au chapitre 4, on voit ici, suite à la guérison de cet homme boiteux, les chefs religieux étaient intrigués. Pourquoi? Parce qu'ils savaient très bien pertinemment qu'il y a quelques mois de cela, il y a cinquantaine de jours, ils ont crucifié Jésus. Et là, maintenant, ses disciples commencent à prêcher que ce Jésus qui a été crucifié, mais a été aussi ressuscité, et que par son nom, maintenant, les disciples avaient réalisé ce miracle en guérissant cet homme boiteux. Donc ils étaient mécontents. Pourquoi? Pourquoi ils étaient mécontents? Ils auraient dû être vraiment contents de cette guérison qui a été faite par la grâce de Dieu. Mais ils étaient en fait mécontents à cause de l'enseignement de Pierre et de Jean. J'aimerais vous lire les deux premiers versets. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survint les sacrificateurs. Le commandant du temple, lien avec les Sadducéens, et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Voilà. Les deux premiers versets, on voit bien que ce sont des sacrificateurs, les grands sacrificateurs étaient là aussi, sûrement, et aussi les Sadducéens. Il y avait des religieux. En fait, si nous regardons un petit peu la théologie des Sadducéens de l'époque, ils étaient complètement contre. Ils étaient farouchement contre. Contre quoi ? La résurrection du corps. Et donc c'est pour ça que quand ils ont entendu que Jésus qui est mort est ressuscité, là ils ne pouvaient pas accepter ce message. Je ne sais pas si vous avez des gens comme ça autour de vous qui ont une conviction ferme. Et quoi que vous lui montrez, même des vérités avec beaucoup de bons arguments, ils ne vont pas accepter. Ils sont tellement omnibulés par leur idéologie ou leur obsession. Ben, les Sadducéens étaient comme ça. À l'époque, ils ne croyaient pas du tout à la résurrection du corporel. C'est pour ça qu'ils étaient farouchement contre. Et donc, prêcher la résurrection était quelque chose d'inimaginable pour les Sadducéens. Les dirigeants du Sanhédrin n'avaient en tout cas qu'un seul souci en tête, que la doctrine de Christ ne s'étende pas parmi le peuple. Voilà. Par contre, ils ne pouvaient pas non plus contredire, parce qu'ils ont vu le miracle. Ils sont un petit peu dans une situation, comment on peut dire ça, ambiguë, hein, puisque, voilà, en même temps, ils sont contre la résurrection, et en même temps, au nom de cet homme qui est ressuscité, d'après les disciples, il y a des miracles qui se produisent. Donc, ils sont vraiment embêtés par cette réalité. Ensuite, ils vont faire, les Sanhédrins vont faire ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire empêcher ces hommes-là de continuer à prêcher. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Puisque ces deux hommes, Pierre et Jean, avaient prêché et qu'il y a eu un tumulte, pour eux, c'était un désordre total. Donc, ce qu'ils peuvent faire, c'est de les arrêter. Et donc, il y a eu une arrestation. Alors, qui les a arrêtés? Ce n'est pas les soldats romains. En général, à l'époque, même les sacrificateurs, dans les Sanhédrins, il y avait une armée religieuse. Et certains pensaient que c'était l'armée romaine qui a dû l'arrêter, mais de nos jours, on est tous d'accord pour dire que c'est l'armée du Sanhédrin qui les avait arrêtés et emprisonnés. Et d'ailleurs, à l'époque, dans la maison même du grand sacrificateur, il y avait des prisons en bas. Et donc, le grand sacrificateur avait le pouvoir d'arrêter des gens et même emprisonner chez lui-même. On pense en tout cas qu'il y a eu cette armée religieuse qui a dû arrêter. Mais là, ce matin, nous avons vu pas mal de témoignages avec la présidence de Thomas, un témoignage de Vania, qui nous a beaucoup touchés. Et puis, il a beaucoup parlé aussi sur le témoignage. Ce matin, je vais encore parler sur l'importance du témoignage. Comment on peut témoigner? Là, ils ont été arrêtés. Les deux disciples, Pierre et Jean, ont été arrêtés. C'était vraiment un moment d'épreuve. Mais il prend cette épreuve, il transforme cette épreuve par une occasion d'évangélisation. Même s'ils étaient dans une situation de détresse, parce que, imaginez, ils n'avaient jamais été arrêtés. Là, c'est la première fois qu'ils sont arrêtés, emprisonnés. Donc, c'est une nouvelle chose, une nouvelle expérience. Mais ils utilisent cette situation de détresse, désespérante, pour transformer cela comme une occasion pour mieux rebondir, pour mieux argumenter de ce qu'ils croient vraiment, de ce qu'ils ont expérimenté. Bref, au lendemain de cette arrestation, ils sont convoqués devant le Sanhédrin pour subir un interrogatoire. En tout cas, cela devait être éprouvant, mais c'était aussi une occasion de témoigner auprès des responsables religieux. J'aimerais vous lire à partir de verset 7. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Imaginez, cet homme malade a été guéri, ils étaient à côté d'eux. Ils l'ont toujours vu pendant 40 ans, pendant 40 années, ils l'ont vu invalide, handicapé. Et là maintenant, il est debout, marchant, en bonne santé. Et il ne pouvait pas contredire. Là maintenant, on voit vraiment, c'est la première confrontation directe entre les apôtres et les chefs religieux. Pierre et Jean furent devant donc les Sanhédrins pour répondre aux accusations et ils leur... Ça a dû... Est-ce que vous voyez un petit peu la scène? Ils sont là, devant les membres du Sanhédrin, étant accusés d'avoir guéri quelqu'un. Ça rappelle un petit peu l'histoire de Jésus, n'est-ce pas? Qui a été aussi accusé faussement. Et Jésus aussi avait subi un simulacre de jugement. Et il a été condamné à mourir sur la croix. Donc ça a dû rappeler à Pierre cet événement de Jésus devant les membres du Sanhédrin. Et là maintenant c'est eux qui sont devant les membres du Sanhédrin. Mais la différence c'est que avant Pierre était un peureux. Il était celui qui avait renié Jésus trois fois. Mais maintenant, c'était un homme transformé, un homme qui s'est repenti de ce reniement. Jésus lui avait pardonné. Maintenant, avec pleine confiance, il pouvait vraiment parler de ce qu'il a vécu. Au verset, dans les actes, on peut voir les versets clés. Dans le chapitre 2, sur le témoignage, dans le chapitre 2, au verset 32, il prêche en disant « Ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins. Nous en sommes tous témoins. » Là, ils disent que oui, nous sommes des gens qui ont vu, qui ont entendu, qui ont senti, qui ont expérimenté. Au verset, chapitre 3, verset 15, il est dit aussi, il prêche ainsi, « Vous avez fait mourir le prince de la vie et que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. » Il y a toujours cette répétition que nous sommes des témoins. Ce que je vous dis, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai entendu, c'est ce que j'ai vu. C'est ce que Vania a dû faire aussi auprès de ses collègues, auprès de ses prisonniers. Verset 3, chapitre 4. Il n'y a pas de mot de témoin, mais c'est une prédication qui parle de ce que Jésus a vécu et ce qu'ils ont entendu. Sachez tous que tout le peuple d'Israël sache, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Cet homme que vous voyez devant vous, c'est au nom de Jésus-Christ qui est mort et ressuscité. Qu'il est maintenant devant vous. Alors, nous allons continuer. Quelles sont alors les conditions pour être un bon témoin de Christ? Lorsque nous voyons dans les Actes chapitre 1, verset 8, il est dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Il ne faut pas agir sur une coup de tête pour peut-être évangéliser dans différents pays ou dans chez moi, non. D'abord, ce qu'il faudrait faire, c'est vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Important qu'on soit vraiment rempli de l'Esprit de Dieu. Je dirais même important qu'on soit accompagné par la présence de Dieu lorsque nous faisons quelque chose pour le Seigneur. Et même pour, lorsque nous faisons des choses pour moi-même aussi. Oui, lorsque le Saint-Esprit est en nous, cet Esprit réalise une transformation en moi tout d'abord. Et ensuite, cette transformation qui a été réalisée en moi apporte une certaine influence, impact aux gens qui sont autour de moi, qui par la suite deviennent aussi des vrais témoins. La deuxième condition pour devenir un bon témoin, bon, c'est encore en lien avec aussi le baptême du Saint-Esprit, ce qui vient aussi en même temps, c'est la repentance. On a parlé aussi ce matin de la repentance. La repentance n'est pas juste un regret de son péché. On peut bien regretter, même les gens du monde regrettent de ce qu'ils ont pu commettre. Mais, et puis la repentance n'est pas non plus une prise de décision de ne plus commettre le péché. On peut bien aussi prendre des décisions. Ce n'est pas que ça, je dirais. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas la vraie repentance. La vraie repentance, la base de toute repentance, c'est revenir. Revenir auprès du Père. Comme le fils prodigue, qui, après avoir dilapidé tous ses biens, après avoir compris son état, il revient auprès de son Père. Et de même, oui, la repentance, c'est ça. Revenir auprès du Père. Chaque jour, nous devrions revenir auprès du Père pour vraiment avoir cette communion intense avec le Seigneur. C'est avec cet esprit de repentance que nous pouvons vraiment nous élever spirituellement. Ensuite, lorsque nous voyons un petit peu ses disciples, après avoir expérimenté cet esprit de Dieu et la repentance, il prêche l'évangile, il prêche Jésus ressuscité. Ils ont prêché de manière intelligente, sage. Et lorsque les chefs religieux, ils ont entendu les arguments apportés par ces deux disciples, ils étaient complètement étonnés car pour eux, c'était des gens sans instruction. Au verset 13, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. C'est des gens qui n'ont pas, peut-être on pourrait dire, qui n'ont pas fait une grande étude, qui n'ont pas fait la théologie, à l'école théologique. Ils n'ont pas peut-être eu une éducation académique normale, mais voilà, remplis de l'Esprit de Dieu. Et aussi, après avoir vécu pendant plus de trois ans avec Jésus, ils ont appris beaucoup de choses, la sagesse. Et vraiment, en étant remplis de l'Esprit de Dieu, ils ont pu apporter de manière intelligente, sage, la parole, le message central, c'est-à-dire Jésus mort et ressuscité pour nous, pour le pardon de nos péchés, pour le salut de tous. Ils prêchent Jésus mort et ressuscité. Ressuscité, egeiro. C'est un verbe en grec écrit en aoriste, c'est-à-dire en français courant, tu dirais. C'est écrit au passé simple, c'est une proclamation, c'est un état de fait, c'est fini. Ce n'est pas juste une imagination, mais c'est quelque chose qui a été réalisé. Jésus est mort et ressuscité. Après, au verset 11, Jésus est la pierre rejetée par vous et qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Est-ce que vous comprenez un petit peu cette parole? Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Pour bien comprendre cette parole, je vous invite à peut-être ouvrir dans Marc chapitre 12. Cette parole de chapitre verset 11 rappelle la parabole des vignerons. Et en parlant de la parabole des vignerons, Jésus raconte à ses disciples comment il va être traité. Il prévient, il prédit qu'il va mourir avec cette parabole. Je vous lis. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne. Ici, un homme, c'est Dieu. Il l'entoura du nez, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma. à des vignerons et quitta le pays. Les vignerons ici sont des gens, des chefs religieux. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur, donc un serviteur de Dieu, vers les vignerons, donc chez les chefs religieux, pour recevoir d'eux une part de produits de la vigne. S'étant saisi de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Dieu a envoyé de nouveau, le propriétaire a envoyé de nouveau vers eux un autre serviteur. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu a envoyé plein de prophètes. Et ces prophètes ont été persécutés souvent, et même morts après. A été tué même par les chefs religieux qui auraient dû écouter le message de tous ces envoyés, tous ces serviteurs. Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il en envoya un troisième, qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres, qu'ils battirent et tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé. Voilà l'apparition du fils de l'homme, fils du propriétaire, je dirais fils de Dieu, le Messie, Jésus-Christ. Il l'envoya vers eux, le dernier, en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais ces vignerons dirent entre eux, « Voici l'héritier. Venez, tuons-le. L'héritage sera à nous. » Et ils se saisirent de lui. Ils le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra fera périr les vignerons et il donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. Voilà d'où vient aussi la parole dans les Actes. Pierre rappelle cette histoire qu'il avait entendue de Jésus. Oui, la pierre, ce Jésus a été rejeté, mais il est devenu aussi la pierre principale pour la construction de l'Église, pour le salut de tous. En fait, ce verset existe déjà dans l'Ancien Testament. Si nous regardons dans le psaume 118, dans le psaume 118, verset 22, Dieu avait prédit en parlant de ce Jésus qui allait venir, ce Messie qui allait venir, lui, il va être rejeté par les gens du monde, mais qui va devenir aussi une pierre angulaire pour vraiment le salut de tous. Il y avait déjà cette prédiction. Et cette parole de psaume 118 était déjà connue par tous apparemment à l'époque, et surtout par les gens de Sanhédrin. Donc, lorsqu'ils ont entendu le message, ils ont compris tout de suite que il parlait d'eux. Quand ils ont compris qu'il parlait d'eux, comment vous auriez réagi? Dieu est en train de vous dire, voilà vos fautes, vos erreurs, vous avez commis dans le passé, et vous êtes en train de commettre encore aujourd'hui. Dieu est en train de parler aux chefs religieux à travers ses disciples, à travers ses serviteurs, de ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire la repentance. Comment vous auriez réagi? Normalement, une bonne attitude, c'est « Pardon Seigneur, et j'accepte maintenant le message qui vient de Dieu. À travers aussi ce miracle qui vient de se produire, maintenant je confesse que voilà, Jésus que nous avons crucifié était le Fils de Dieu. » Non, ce n'était pas leur réaction. Leur réaction, c'était faire des menaces. Ils étaient dans leur confort, dans leur zone de confort. Ils ne voulaient pas sortir de cette zone de confort. Ils étaient bien. Ils étaient bien choyés. Ils avaient une certaine autorité. Ils pouvaient même faire ce qu'ils voulaient avec le peuple. Donc, ils n'ont pas voulu abandonner tout cela. Et donc, ils persécutent. Mais ils ne pouvaient pas les tuer. Ils avaient le pouvoir de les emprisonner, mais maintenant qu'ils sont en train de discuter, ils voient qu'ils ne peuvent pas argumenter pour dire qu'ils sont tort à 100%. Alors, comme ils n'ont pas d'autres moyens, ils les menacent. Verset 17. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Verset 21. Ils leur firent de nouvelles menaces. Donc plusieurs fois ils menacent. Et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Est-ce que vous avez déjà été menacé par quelqu'un? Non? Jamais? Oh non, ça vous arrive jamais, ce genre de choses. Hein? De toute façon, vous n'allez jamais dans des endroits bizarres, hein? N'est-ce pas? Hein? Parfois, moi j'ai un copain qui allait justement, qui a été menacé par des voyous, mais ce n'était pas des voyous comme ça, mais des voyous de haut rang, avec une organisation derrière. Et il disait que c'était vraiment impressionnant. Même s'ils n'ont rien fait, avec leur apparence, il était complètement tremblant, etc. Oui, je pense que ça doit être ça. Ils avaient toute la puissance pour faire tuer même les gens. Ils avaient même tué Jésus. Ils avaient la capacité, l'autorité. Cette menace devait être vraiment terrifiante. Mais comment y répond le disciple ? Au verset 19, Pierre et Jean leur répondirent « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Est-ce qu'il est juste que moi je vous obéisse alors que Dieu nous dit autrement? Il vaut mieux que j'obéisse à Dieu qu'aux hommes. C'est ça en fait. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. C'est presque une obligation. Et par la suite, ils sont relâchés. Ils sont relâchés même si avec des avertissements. Ils sont relâchés, ils sont revenus auprès des siens et ils font des prières de reconnaissance. Et au verset 29, il dit « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Là, ils n'ont pas du tout été découragés pour annoncer. Au contraire, ils demandent à Dieu de donner leur plus de force et de courage. Courage pour annoncer sa parole. En entendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint, serviteur Jésus. Oui, dans 1 Corinthiens, on voit un petit peu les attentes des Juifs et des Grecs. Dans 1 Corinthiens 1, verset 22, il est dit « Les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. » Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Voilà. Le message central qu'avaient annoncé les disciples. C'était ça, ce message de Christ crucifié était vraiment une puissance. Au point que 3000 et 5000 personnes se sont converties. Et ils savaient très bien que c'était ce moyen, le seul chemin pour connaître Dieu, pour mieux le connaître. Au verset 28, chapitre 2, verset 28, il est dit « Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie et de la présence. » Ça rappelait un petit peu que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Je vais conclure. J'ai vu récemment un film coréen. C'est un petit résumé d'un film. Le titre de ce film, c'est « I can speak ». Juste « I can speak ». en anglais. Et c'est l'histoire d'une grand-mère. Cette grand-mère était une dame très grincheuse. Et puis, elle portait plainte tout le temps auprès de la mairie. Au point qu'elle avait fait des plaintes 8000 fois. 8000 fois. Donc, on voit bien le personnage, hein, toujours grincheuse. Quand elle n'est pas contente, hop, tout de suite à la mairie pour porter plainte. Pour dire que voilà, ça va pas. Donc, elle avait fait ça. Donc, elle faisait ça tout le temps auprès d'un fonctionnaire qui recevait justement les plaintes. Et puis, un jour, elle aperçoit que ce fonctionnaire parle super bien l'anglais. Et là, elle était impressionnée par son anglais. Et puis, elle lui demande, « Est-ce que tu peux m'apprendre l'anglais, s'il te plaît? J'aimerais vraiment bien apprendre. » Elle était très vieille, c'était une vieille dame. « Mais pourquoi vous voulez apprendre l'anglais? Vous êtes vieille. » Mais elle avait vraiment envie. Et au fur et à mesure que le temps passe, on voit qu'on a l'impression qu'elle veut apprendre cet anglais, cette langue, pour peut-être communiquer avec son petit frère qui est parti aux États-Unis. Mais en fait, à la fin du film, son objectif, pourquoi elle voulait apprendre absolument l'anglais, c'est tout simplement parce qu'elle était victime de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Elle a été victime d'une esclave sexuelle. On appelle ça les femmes de réconfort, qui a été enrôlée de force, souvent des femmes mineures, c'était des femmes de toute l'Asie, même il y avait des Européennes aussi, qui ont été enrôlées de force pour satisfaire l'armée japonaise. Alors, comme le Japon ne reconnaissait pas du tout leur acte, même jusqu'à aujourd'hui, cette femme qui a été enrôlée de force a voulu témoigner devant le Congrès américain, etc. Et à la fin du film, elle est devant le Congrès en train de témoigner en anglais. Voilà, ça se termine comme ça. En montrant même, elle soulève son ventre en disant comment elle a été charcutée, hein. Parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de morts aussi. Ces femmes d'esclaves sexuels ont été aussi tuées. Pourquoi ? Pour effacer les traces. Mais bon, il y a plein de traces, plein de preuves. Et que maintenant, depuis 2008, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a formellement demandé au Japon d'assumer ses responsabilités. Mais le Japon n'a jamais répondu à cet appel de l'ONU. Même jusqu'à aujourd'hui. Voilà, cette femme avait vécu quelque chose de très fort. Elle voulait vraiment absolument témoigner de ce qu'elle a pu vivre, parce que le message était très important, pour que ce genre de choses ne se renouvellent pas. Nous, c'est un autre témoignage. Nous avons vécu une expérience extraordinaire avec le Seigneur. Nous qui étions tellement loin, méritant la colère de Dieu, maintenant que nous avons vu, entendu, expérimenté cette joie de vivre avec le Seigneur, voilà, le Seigneur maintenant nous demande d'ouvrir la bouche, d'être rempli de Dieu, et aussi de, tout simplement, en étant dans la présence de Dieu, parler autour de nous, et vivre en tant que des vrais témoins, pas juste. On peut parler, mais aussi on peut témoigner à travers ma vie, mon comportement. Pierre et Jean étaient des gens exemplaires. Leur transformation était radicale. Ils ont pu apporter un vrai super témoignage. La semaine prochaine, nous aurons un culte d'évangélisation. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Pardon. Que ce soit aussi l'occasion pour apporter aussi, pour prêcher, même inviter des gens. On n'a pas grande chose à faire, c'est juste inviter. Et voilà. La dernière fois, Gabriel disait, en présentant la cellule de samedi matin, elle a dit, viens et vois. Exactement pareil. On peut aussi inviter aux gens en disant, viens et vois ce que le Seigneur fait dans nos vies. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. vous invite à la prière.